Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
D'abord, une affaire extrêmement pénible et qui dépasse un peu notre entendement en France. Néanmoins, il faut la relater. Jimmy Wilson, citoyen américain âgé de 55 ans, avait volé la somme de 1 dollar, volé paraît-il, la somme de 1 dollar et 95 cents. Pour cela, Jimmy Wilson, 55 ans, citoyen noir des États-Unis d'Amérique, a été condamné à mort pour avoir dérobé une somme égale à 900 francs à Mrs. Estelle Barker, sa patronne, citoyenne américaine sans distinction de pigmentation.
I got up this morning, had a train whistle blow. I got up this morning, had a train whistle blow. Lord, I thought about my baby, I sure did wanna go.
Pour ce quatrième volet de notre série consacrée à la musique des droits civiques, nous allons faire un bond de 100 ans dans le passé. Bien avant que Martin Luther King ne parvienne à mobiliser la population noire d'Amérique, le combat pour la dignité humaine passe par le blues et les negro spirituals. Que les mots soient profanes ou sacrés, l'appel à la clémence de l'homme blanc à l'égard de ceux que l'on appelait les nègres n'est pas encore revendicatif, mais témoigne des conditions de vie déplorables. Ainsi, des décennies avant le bouillonnement social et racial des années 60, des musiciens et chanteurs noirs faisaient résonner dans la campagne sudiste les tout premiers échos d'une fronde encore très timide, mais tellement nécessaire.
I was walking down the levee with my head hanging low, looking for my sweet mama, but she ain't here no more. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue. Lord, 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 I'm so blue. My house got washed away, and I'm crying how long for another payday. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue.
Lorsque l'on prend le temps de parcourir le sud des États-Unis, là où la ségrégation était la plus féroce, il est encore possible de percevoir les vestiges d'une époque terrible durant laquelle les Noirs n'étaient que des citoyens de seconde classe, à la merci d'exactions ou de lois injustes et très contestables. Il y avait pourtant des lieux où une relative paix sociale pouvait être observée. Entre Ruleville et Cleveland, dans le Mississippi, se trouvent les Dockery Plantations, où, dit-on, le blues vit le jour à la fin du 19e siècle. Là, le soir, des artistes noirs venaient souffler un peu, boire et faire de la musique avec la bénédiction de Will Dockery, un notable blanc de la région, propriétaire de fermes et d'exploitations agricoles, où la main-d'œuvre noire était traitée avec un semblant de mansuétude, comme nous le précise Bill Lester, actuel conservateur des Dockery Farms ou Dockery Plantations. L'appellation officielle n'a finalement que peu d'importance.
Well, there's no real difference. The people on the place.
Il n'y a pas vraiment de différence. Les gens qui vivaient ici appelaient ce lieu Dockery, tout simplement. Ils ne précisaient pas s'il s'agissait d'une ferme ou d'une plantation. Pour eux, il s'agissait de Dockery. Le terme Dockery Farms était utilisé par Will Dockery, le maître des lieux, en 1895, car il y avait plusieurs fermes dans la région dont il était propriétaire. Le mot plantation avait une connotation péjorative, car il renvoyait à la période de l'esclavage. Or, ici, aucun noir n'était un esclave, puisque l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1865, 30 ans avant la création de cette exploitation agricole. Will Dockery versait des salaires à ses employés noirs, et s'ils désiraient récolter le coton, libre à eux. Ils étaient peu payés, 50 cents par jour, mais ils étaient logés, nourris, blanchis. C'était un patron très progressiste pour l'époque. Le seul moyen que ses employés continuent de travailler pour lui était le respect mutuel. C'est aussi la raison pour laquelle il permettait à des musiciens de venir jouer le samedi soir dans les plantations. Il pouvait ainsi être en contact avec son personnel. Il était un cas unique, car la majorité des exploitants agricoles blancs n'autorisaient aucun noir à venir jouer le blues sur leur plantation. Cela posait beaucoup trop de problèmes. L'excès d'alcool, les bagarres, les viols étaient bien trop fréquents. Sans compter que certains blancs excédés n'hésitaient pas à utiliser des armes pour effrayer tous ces noirs qui causaient tant de désordre à leurs yeux. Les musiciens ne pouvaient jamais se produire sereinement sans qu'un shérif ne vienne les déloger. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio pour écouter de musique. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas les téléphones portables d'aujourd'hui. Par conséquent, les réunions de musiciens se faisaient de manière spontanée, sans que personne ne soit vraiment au courant. Et ils jouaient cette musique sauvage que les Rolling Stones ont adoptée des décennies plus tard. Ces gens n'avaient d'autres compagnies que le vent, les orages, le chant des oiseaux, les disputes avec une fille un peu trop farouche. Voilà quel était leur quotidien. Vous comprenez pourquoi ils se libéraient quand ils jouaient le blues. Qu'auriez-vous fait à leur place? Vous auriez pris vos 25 cents de salaire et vous auriez fait de la musique. C'est exactement ce que fut la vie de ces gens. Monsieur Dockery, dans sa grande bonté, a permis cela.
And that's what these people did. And so Mr. Dockery just allowed that to happen here.
Everybody's working in this town, and it's worried me night and day. Everybody's working in this town, and it's worried me night and day. Yes, that mean working too. Had to work for the WPA. Well, when the landlord come this morning, and he knocked on my door, he asked me if I was going to pay my rent no more. He said, you have to move if you can't pay. And then he turned and he walked slowly away. So I have to try, find me some other place to stay. That house wrecking crew's coming from the WPA.
À quand remonte la première chanson de contestation? Y avait-il dans le blues des origines une volonté de rébellion? Toutes ces questions restent aujourd'hui encore en suspens, car l'oppression à l'égard des Noirs était telle qu'il fallait une sacrée dose de courage pour oser dénoncer la domination blanche institutionnalisée depuis 1619 sur le territoire américain. Par ailleurs, avant la création des procédés d'enregistrement, rien ne peut attester d'une humeur protestataire dans le répertoire noir. Enfin, il est très difficile de dater la naissance du blues, ni même de savoir où il a germé. On dit que les Dockery Plantations furent l'un des terreaux fertiles pour l'expression initiale du blues. Mais Bill Lester n'est pas aussi affirmatif.
Tout le monde dit que cet endroit est le lieu de naissance du blues. Mais honnêtement, personne ne sait où a été jouée la première note de blues. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que beaucoup de compositions blues ont été créées sur cette plantation. Beaucoup de musiciens ont répété ici. Howlin' Wolf a grandi ici avant de prendre la route à l'âge de 22 ans. Quand il fut interrogé en 1950 par Robert Palmer, il racontait que Charlie Patton lui avait appris le blues sur les plantations Dockery. Pop Staples, le leader des Staples Singers, a dit la même chose. Beaucoup de musiciens sont venus demander conseil à Charlie Patton dans ce lieu. Chaque samedi soir, durant les années 1920-1930, de nombreux musiciens venaient jouer ici même. Quand B.B. King a déclaré que Dockery était le lieu de naissance du blues et que Charlie Patton en était le créateur, il n'avait pas complètement tort. De toute façon, tous les historiens qui contestent ces propos n'étaient même pas nés quand le blues a vu le jour à la fin du 19e siècle. N'oublions pas que B.B. King est né en 1925 et fut donc le contemporain de tous ces artistes. Il a forcément appris de ses aînés et fut le témoin de beaucoup d'événements survenus ici dans le Mississippi. Croyons-le au moins sur parole. Nous avons ici des photos et un film de B.B. King dans lequel il déclare que les plantations Dockery représentent le lieu de naissance du blues. Vous savez quoi? J'ai plutôt tendance à le croire. Cette photo que vous voyez là a été prise en 1972. B.B. King en était à la moitié de sa carrière. Il participait alors au film Good Morning Blues, réalisé par la BBC. Si vous doutez encore de ses dires, ce documentaire est disponible dans les archives du Mississippi.
In my day, we learned the blues songs from the records and the radio. But back then, blues musicians learned from each other. And this is Dockery's Plantation in the heart of the Delta near Greenville. If you had to pick one single spot as the birthplace of the blues, you might say it all started right here.
Après cette immersion dans l'histoire ancestrale du peuple noir américain, nous avions besoin de pousser encore plus loin notre quête de sens. Le blues était-il, dès sa naissance, une forme d'expression revendicatrice? A-t-il accompagné, voire suscité, l'éveil des consciences et la lutte pour l'égalité raciale? Il nous fallait trouver les réponses à ces interrogations qui nous occupaient l'esprit depuis notre arrivée dans le Mississippi. Nous avons donc repris la route en direction de Cleveland.
It's 1226. Today's best country, just the way you like it. This is Kix 92.1.
Bizarrement, sur notre chemin, la radio ne diffusait que de la country music et des cantiques religieux. Le blues semblait absent sur la FM américaine, comme s'il fallait ignorer ou éluder une part d'un patrimoine sonore toujours trop encombrant. Parvenus à Cleveland, Mississippi, nous nous sommes arrêtés devant une petite maison au 614 Chrisman Avenue, qui fut jadis la demeure d'Amzi Moore, activiste méconnu, qui œuvra pourtant vaillamment pour la défense des droits civiques dans les années 60. Là, nous avons rencontré Emily Jones, conservatrice de cette petite maison historique, où discrètement, les partisans non-violents préparaient la riposte aux exactions policières quotidiennes.
Well, the Amzi Moore House tells the story of Amzi Moore's involvement in the civil rights movement.
La maison d'Amzi Moore est le symbole de l'engagement d'un citoyen noir, du nom d'Amzi Moore, durant le mouvement des droits civiques. Il a vécu ici, avec sa famille. On peut considérer ce lieu comme le centre de coordination originel du mouvement non-violent dans le delta du Mississippi. Il était primordial, à l'époque, que l'on parvienne à trouver une unité entre les différents partisans de Martin Luther King et que l'on avance tous ensemble. Par conséquent, toutes les âmes charitables étaient sollicitées, les voisins, les amis, les ouailles des églises baptistes, etc. Tous ces gens se rendaient dans la maison d'Amzi Moore pour coordonner leurs actions de contestation, connaître leurs droits, inciter leurs voisins à faire de même et faire appliquer la loi sur le droit de vote des Noirs d'Amérique. Nous avons ici la liste précise des gens qui ont fréquenté ce lieu, notamment Ella Baker, Victoria Gray Adams et Sam Block Jr., dont la sœur Margaret Block a longtemps œuvré pour préserver cette maison et en faire un musée. Elle nous a quittés en juin 2015, mais elle a toujours soutenu notre travail patrimonial. Son frère, Sam, travaille désormais à l'office de tourisme de Greenwood.
Et je vois Stokely Carmichael.
C'était au tout début de sa carrière de militant. Il a progressivement quitté le mouvement non-violent et s'est éloigné d'Amzi Moore, qui était un fervent défenseur de l'Association pour l'avancement des gens de couleur, avant de rejoindre le SNCC, le Comité de coordination des étudiants non-violents. Est également venu ici Aaron Henry, qui venait de Clarksdale, évidemment Martin Luther King, et Fanny Lou Hamer, dont je vous conseille le musée à Rouleville, à deux pas d'ici.
La voix que vous écoutez actuellement est celle de Fanny Lou Hamer, qu'évoquait notre guide Emily Jones il y a un instant. Fanny Lou Hamer était une militante pour les droits civiques dont le franc-parler impressionnait ses interlocuteurs. Elle devint l'une des grandes voix du Freedom Democratic Party dans le Mississippi et comme tout citoyen noir aux États-Unis, elle fréquenta les églises baptistes où elle apprit à chanter des airs Negro Spirituals pour galvaniser ses compagnons. Une fois de plus, la musique assurait la cohésion des militants.
La musique, et principalement le gospel, était une manière de rester en contact avec la communauté africaine-américaine. Par ailleurs, il suffisait de se rendre un peu plus au sud pour pouvoir fréquenter ce que l'on appelait les juke joints, ces petits clubs réservés aux Noirs où l'on jouait le blues. Excusez-moi un instant, je crois que M. McBride vient d'arriver.
How are you, sir? How are you doing?
Nice to meet you.
Good to meet you. Good.
Well, I was just fixing to move over into the dining room. We talk about the.
L'arrivée inopinée de ce monsieur, James McBride, dans notre échange a subitement transformé notre conversation. Nous étions en présence d'un témoin direct du tumulte africain-américain il y a 50 ans. Il nous fit donc part de ses souvenirs quand la ferveur de la musique portait l'espoir du peuple noir.
One of the most amazing things to me was.
Personnellement, je me souviens avoir fréquenté un de ces juke joints nommé le Cotton Club où l'on se retrouvait pour danser le samedi soir. Le dimanche matin, nous allions écouter des airs gospel à l'église. Ce qui m'amusait, c'est que les danses du samedi soir ressemblaient beaucoup à celles du dimanche matin. À l'époque, j'écoutais une chanson de Mitty Collier intitulée « The Love of My Man ». Aujourd'hui, elle prêche dans les églises, mais autrefois, elle était une chanteuse de blues qui utilisait des cantiques religieux. Cette chanson est en fait un air gospel intitulé « The Love of My God ». Ce n'est qu'en lisant sa biographie que j'ai compris sa manière de concocter son répertoire. Elle est toujours de ce monde, elle a aujourd'hui 76 ans.
The love of my man keeps me warm and strong. But it comes from the lyric « The love of my God ».
Au fil des minutes, James McBride a fini par se dévoiler. En se remémorant cette chanson « The Love of My Man », il revoyait sa jeunesse et insistait sur l'absolue nécessité de préserver la maison d'Am Zimour.
Well, to me, it's historical, but at the same time, it's something that.
Pour moi, cette maison est une part d'histoire, mais aussi de mon histoire. Je fais partie de cette génération d'activistes et j'ai grandi dans le Mississippi. Je connais parfaitement cette région et son histoire. Je suis allé à l'école par ici. J'ai travaillé toute ma vie dans ce secteur. Certes, je ne suis pas né dans le Mississippi. Je suis natif de Gary, dans l'Indiana. Mais ma mère a choisi de déménager ici après avoir divorcé. Nous nous sommes donc installés à Mount Bayou, non loin d'ici. Nous sommes restés 3 ans, puis nous nous sommes installés à Sunflower, toujours dans le Mississippi. Je connais donc parfaitement la société sudiste. Je ne suis pas un produit de cette région, mais j'y suis très attaché. J'ai beaucoup d'amis désormais dans le Mississippi. Je connais tous les commerçants du coin et à chaque fois que je viens ici, je ressens beaucoup d'émotions. Il se trouve que je lis beaucoup d'ouvrages historiques et je comprends davantage ce qui s'est passé ici. Parfois, certains événements historiques rapportés par des journalistes ont fait partie de mon vécu personnel. Récemment, je lisais un chapitre consacré à l'université Tougaloo, où le mouvement des droits civiques a germé. Je viens d'ailleurs d'apprendre qu'un documentaire sur Fannie Lou Hamer est en cours de préparation. Tout ça pour vous dire que je vis ici depuis toujours et je connais parfaitement les lieux et les gens.
We have this privilege, and we gotta be responsible for keeping it. And they've done that.
In Jackson, Mississippi, in 1963, there lived a man who was brave. He fought for freedom all of his life, but they laid Medgar Evers in his grave. They laid Michael Evans in his grave. They laid Michael Evans in his grave. He fought for freedom all of his life, but they
La chanson que vous écoutez actuellement évoque l'assassinat de Medgar Evers. Comme Hamzy Mour, il a été un militant que l'histoire a oublié. Nous voulions en savoir davantage sur cet homme courageux qui donna sa vie pour l'avenir de sa communauté. Minnie White Watson a bien connu la famille Evers et préserve la mémoire de ses amis disparus. Elle nous a donné rendez-vous à Jackson, Mississippi, devant la maison de Medgar Evers, pour nous raconter ce jour tragique où son ami fut froidement abattu.
The night of the assassination, which was June 12, 1963.
Le 12 juin 1963, Medgar Evers est de retour à la maison, après un rassemblement de jeunes qui préparaient le Freedom Summer. Cette manifestation annuelle permettait aux citoyens noirs de se tenir au courant des enquêtes en cours, des violences policières, etc. À l'époque, John Fitzgerald Kennedy était président des États-Unis et venait de délivrer son premier grand discours consacré au mouvement des droits civiques. Quand Medgar Evers est rentré à la maison, après avoir regardé le discours du président Kennedy à la télévision, il avait mis sur ses épaules le t-shirt que les étudiants avaient prévu d'arborer le lendemain, durant le Freedom Summer. Ce t-shirt disait « Les lois racistes Jim Crow doivent être abolies ». Dans l'ombre, un certain Byron de la Beckwith, qui attendait patiemment depuis des heures dans la maison d'en face, tira avec son fusil sur Medgar Evers. En entendant les coups de feu, Madame Evers protégea ses enfants en les allongeant sur le sol. Puis elle les dirigea vers la salle de bain, le seul endroit qu'elle jugeait suffisamment sécurisé. Tandis que les enfants se cachaient, elle prit conscience que ce bruit cinglant venait d'atteindre la maison. Deux autres coups de feu furent tirés, mais ils provenaient d'un voisin qui répondait aux attaques de Byron de la Beckwith. Madame Evers a aussitôt compris ce qu'il venait de se passer. Elle a hurlé et des voisins ont accouru.
He came running. He said, when this other man, he lived all the way over here, when he heard the shots, he said,
l'un d'eux a fait le tour du quartier pour essayer de retrouver l'assassin, tandis que d'autres déplaçaient le corps de Medgar Evers à l'intérieur de la maison. Madame Evers raconte que l'ambulance n'est bizarrement jamais arrivée. Il a fallu qu'un voisin l'emmène en urgence à l'hôpital. Évidemment, les Noirs ne pouvaient pas être admis dans n'importe quel service d'urgence. On les dirigeait principalement dans les sous-sols des hôpitaux. Un infirmier blanc a accepté de se déplacer pour constater les blessures et l'a finalement conduit aux urgences. Un médecin noir, ami de Medgar Evers, qui n'avait pas le droit de fréquenter les hôpitaux réservés aux Blancs, s'est tout de même rendu sur place au cas où aucun chirurgien n'aurait voulu prendre en charge Medgar Evers. Ce n'est que lorsque l'équipe médicale prit connaissance de l'identité du blessé que les choses se sont accélérées. Malheureusement, il était bien trop tard et Medgar Evers n'a pas survécu. Ce n'est que 21 ans après que son meurtrier fut inculpé. Il était pourtant évident que cette personne avait tiré sur un homme noir sans défense, avec une carabine suffisamment puissante pour traverser le corps de sa victime et ricocher jusque sur le réfrigérateur de la maison. Byron de la Beckwith a finalement fini ses jours en prison. Il fut transporté en urgence quelques heures avant sa mort dans un hôpital pour des complications cardiaques. Il se trouve que cet hôpital était celui où Medgar Evers a rendu l'âme.
Bye
bye my baby, rock you to sleep, sing you a sad song, it might make you weep. Your daddy's dead and he'll never come back, and the reason they killed him, because he was black. I'll tell you a story that you ought to know. It happened in our town, a short Your daddy was walking alone for some air, and a man in the bushes was waiting right there.
Le meurtre de Medgar Evers a eu un tel retentissement dans la communauté noire que tous les sympathisants de la cause africaine-américaine ont voulu témoigner de leur compassion. La chanteuse blanche de folk music Judy Collins composa Medgar Evers' Lullaby qu'elle interpréta en public à New York le 21 mars 1964.
He cried for the things that a man leaves undone, and he cried for the dreams that he had for his son.
Beaucoup d'artistes évoqueront la personnalité singulière de Medgar Evers dans leurs chansons. Il faut dire que ce militant de la première heure montrait un courage admirable face aux intimidations et aux humiliations quotidiennes. Minnie White Watson reconnaît elle-même avoir acquis une conscience citoyenne au contact de cet homme.
I met Meg as a freshman in college. He came to the school that I lived, junior college.
J'ai rencontré Medgar pour la première fois alors que je n'étais qu'une lycéenne. Il était venu délivrer son message aux jeunes et je l'écoutais avec beaucoup d'attention. Il disait « Faites attention à vous, protégez vos familles ». Il savait qu'il ne pouvait pas convaincre tout le monde, mais il voulait éduquer les jeunes pour qu'ils comprennent ce qu'il se passait dans cette société. Ce jour-là, des jeunes du monde entier avaient été réunis pour assister à son discours. Il y avait même des élèves africains, originaires du Kenya, qui lui posaient beaucoup de questions. « Monsieur Evers, pourquoi vous faites tout cela ?» Et lui répondait inlassablement « Parce que j'en ai la responsabilité ». J'ai réalisé plus tard que ces mots avaient eu un impact important sur ma propre destinée. Ma manière de penser et de réfléchir évoluait en écoutant ses propos. Avant lui, je n'avais jamais entendu qui que ce soit parler des droits civiques ou même des droits humains. Comme son message ne passait jamais à la télévision, il n'y avait qu'au lycée que nous pouvions l'entendre. Même la radio ne diffusait jamais en direct les discours des militants. Les techniciens préféraient enregistrer au préalable avant d'envisager une diffusion ultérieure.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
A change is gonna come, Sam Cooke en 1964. C'est sur cette voix poignante que nous allons nous quitter, non sans vous avoir donné rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à la musique des droits civiques à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition du pasteur Martin Luther King, survenu le 4 avril 1968. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ces reportages inédits, au premier rang desquels Visite Mississippi, Memphis Travel, Equinoxial et American Airlines. Mes salutations distinguées à Apolline Verlon, Igor Strauss et Christophe Paget, les voix françaises de nos témoins américains. Et mes félicitations à Nathalie Laporte pour la mise en onde de cette ambitieuse collection d'émissions spéciales. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.